Et c'est donc l'heure de retrouver Bruno Canard et l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors le festival d'Angoulême vient d'annoncer le prochain président du festival de 2025. Ça sera le 52e. Je pense que vous n'avez pas oublié ou échappé à tout ce qui a pu être dit aujourd'hui sur les médias, sur le festival d'Angoulême. Alors après Claire Bretéché, Florence Estac, Rumiko Tahaki et Takahashi, pardon, et Julie Doucet, c'est Posy Simmons qui est présidente et qui sera présidente du 52e festival donc de 2025. C'est la cinquième femme à être primée pour l'ensemble de son œuvre. C'est peu, puisque cette année, c'était la 51e édition. Alors, Posy Simmons, les Français l'ont découvert avec son adaptation du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary, qui est devenue Emma Bovary dans sa version en bande dessinée. Ben, nous allons consacrer cette émission au Festival d'Angoulême et ce qu'il affirme de la bande dessinée aujourd'hui. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Ça sera Alain Bachung qui va être l'invité musical de cette émission. Nous allons écouter quatre titres ou extraits, puisque il fait légitimement, selon son souhait, des morceaux qui prennent un espace donc dans une émission. Et j'ai, voilà. Donc quatre titres pour Bachung aujourd'hui. Fabien, vous l'avez entendu, est à la technique. Alors, un grand prix de la ville d'Angoulême, c'est quand même toujours un événement. Le premier, en 1974, c'était André Franquin. Une très bonne entrée en matière. Et depuis, de nombreux auteurs se sont succédés. Il y a eu un moment de changement dans les nominations, puisque pendant un grand nombre d'années, ce sont les anciens Grands Prix qui élisaient le prochain. Et à un moment, donc, la direction du Festival d'Angoulême a souhaité modifier ce type de nomination. Et ce sont les auteurs eux-mêmes qui votent pour un candidat ou une candidate sélectionnée parmi un ensemble. Et donc, les trois de cette année, eh bien, c'était Daniel Clowes et Catherine Meurice, qui étaient donc avec Posy Simmons, les trois auteurs qui ont qui pouvaient prétendre à être le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Alors cette année, c'est Riyad Satouf qui a eu une œuvre conséquente. Posy Simmons, c'est un peu différent parce que son œuvre n'est pas très importante. Elle est importante par la forme. C'est dans la mesure où elle a fait de l'adaptation littéraire un vrai chantier narratif, et Emma Bovary en est l'exemple frappant. C'est dans ce livre où, immédiatement, vous avez un rapport au texte qui se fait sur deux niveaux, avec notamment un texte qui est calligraphié, qui reprend beaucoup plus l'esprit des passages littéraires, et puis un texte qui accompagne une mise en image qui n'est pas celle classique d'un découpage où on adapte le roman de départ, comme par exemple j'ai pu le présenter avec les récentes adaptations en bande dessinée de romans durs de Simenon. Alors ce travail de relecture et d'utilisation du dessin pour traduire cet esprit de l'œuvre de Flaubert a marqué, et Posy Simmons a une exposition à la BPI donc de Beaubourg pour présenter le travail de Posy Simmons dans l'adaptation littéraire. Alors les deux autres candidats, ils avaient des arguments. Catherine Meurice, elle a un parcours assez exceptionnel, très important. Donc elle a fait différentes études d'art graphique. Elle a travaillé pour différents magazines. Et elle a fait vraiment ce travail graphique très important avec une ouverture sur différents styles qui était déjà pas de temps. Et puis, elle avait dans la caractéristique de son écriture dessinée ce rapport à l'ironie qui était patent dans son trait, dans l'état d'esprit de ses histoires. Elle a donc travaillé longtemps pour Charlie Hebdo jusqu'en 2015 où, après les attentats, elle a donc écrit la légèreté pour parler de son retour à la vie. Mais je voudrais parler de Catherine Meurice juste en peu d'images, parce que dans un de ses derniers livres, Humain, trop humain, il y a une page absolument mémorable qui pourrait être présentée dès que l'on présente la bande dessinée et son univers narratif. C'est une histoire qui s'appelle M'épilation métaphysique. Donc à chaque fois dans ce livre Humain trop humain, nous sommes sur la philosophie et un philosophe est présenté en deux pages et Catherine Meurice fait la mise en image pour qu'elle soit en bande dessinée. Dans cette double page, nous nous occupons de Descartes et ça démarre par une scène qui se passe dans un institut de beauté où on peut imaginer que c'est l'auteur qui va se faire épiler. Et là, il y a une scène qui, en image, vous fait mais éclater de rire. C'est pas facile et c'est plutôt rare d'éclater de rire lorsqu'on lit une page de bande dessinée, mais là, je pense que toutes les femmes qui vont lire cette histoire vont peut-être avoir un rapport à l'épilation qui sera sans doute pas tout à fait le même. Je vous la laisse découvrir parce que l'intérêt de la radio, c'est que justement, il n'y a pas d'image et donc la surprise sera totale. Donc ça, c'est l'univers de Catherine Meurice qui avait donc tout à fait des arguments pour pouvoir être aussi primée pour l'ensemble de son œuvre. Le troisième, c'est Daniel Clowes, qui est un auteur américain qui a une œuvre tout à fait singulière et qui a, dans sa démarche, un rapport au réalisme tout à fait particulier. C'est un auteur qui est là pour... qui cherche à mettre en lumière ce qui représente, ce qui peut être l'indicible de la nature humaine, c'est-à-dire comment on vit et comment on peut subir les différentes évolutions de la société, la présence des uns et des autres, des proches ou des moins proches, et comment comment l'auteur va chercher à rendre présent, palpable, ces différents malaises que l'on peut ressentir tout au long de notre parcours. Le dessin réaliste de Daniel Clowes va permettre de donner une lecture tout à fait immédiate de la page, de la case, de la double page, parce que il y a une familiarité et une capacité à percevoir le contenu de l'image par ce réalisme. Mais à chaque fois, il y a un choix du moment qui est représenté, un choix des émotions, un choix des expressions, qui à chaque fois va être traité avec beaucoup de nuances et qui va permettre d'exprimer de façon sensible des malaises. Et dans la juxtaposition et la lecture de ces histoires, on va vraiment être au plus près de ce malaise de nos sociétés contemporaines et notamment de la société nord-américaine. Il y a quelques œuvres indispensables comme David Boring ou Comme un gant de velours pris dans la fonte, avec donc à chaque fois des territoires narratifs différents, des façons d'écrire différentes, histoires longues ou récits courts. Daniel Clowes a fait sa revue dont j'avais présenté un recueil. Donc à chaque fois, c'est une autre écriture, mais pleinement maîtrisée, et qui fait de Daniel Clowes un des grands auteurs de bande dessinée contemporaine. Donc voilà, c'était les trois nominés. Donc c'est Posy Simmons qui a remporté ce grand prix de la ville d'Angoulême, et donc son œuvre sera consacrée au prochain festival par une grande exposition, comme Riyad Satouf a son exposition cette année lors du festival qui a démarré ce matin. Incroyable. Allez, premier titre de Bachung, c'est parti.
Prenais la main et tu m'emmenais sur le mont Valérien, me faire voir les galaxies, me faire écouter les comètes. Tu me disais, préconisais des caresses volubiles. C'était quand je voulais, où je voulais. Je n'étais plus la risée. D'âpres hostilités, tu m'arrivais comme un torrent dans l'estuaire. Tu me disais, c'est les ragots du fiel, le venin navère de terre. J'irai en découdre avec ce tissu de mensonges. Abattons la cloison, arrachons les plaintes, la citadelle au créneau, à l'assaut de l'euphorie. C'est pas le fruit d'une mûre réflexion, mais plutôt une pulsion. Sans nom, sans définition, mon unique solution, pure laine, coton. C'est pas le fruit, c'est pas la saison,
c'est pas la raison.
Après d'âpres hostilités, tu me prenais la main et ça tournait. Tu me disais, c'est la faute au cerveau, c'est faux départ, drapé, digne. Reprenons les grandes manœuvres, la tenue léopard. Je ne suis là que pour toi. Je ne suis là que pour toi. J'ai fait un songe, une hypothèse, un projet de baisse.
Oui. Le festival d'Angoulême a changé de façon très conséquente. La simple occupation de la ville n'est plus du tout la même depuis les années 70. On peut bien sûr l'imaginer. J'ai fait ma première participation en 1982. Le nombre de bulles, comme on dit, de chapiteaux, alors à ce moment-là, ça n'avait pas vraiment la forme d'un chapiteau. C'était, il y en avait qu'une qui était sur la place du Champ de Mars. Lorsque vous arrivez aujourd'hui pour un festival à Angoulême, une très grande partie de la ville, les différentes places sont occupées avec des chapiteaux pour différentes utilisations. Bien sûr, il y a les éditeurs qui sont regroupés en plusieurs chapiteaux, mais qui permettent ainsi d'appréhender la bande dessinée dans toute sa diversité. C'est une des caractéristiques de ce salon, c'est d'avoir eu des prix qui ont toujours exprimé une pluralité quand même importante de l'édition en bande dessinée et qui, à chaque fois, a cherché à mettre en valeur des démarches narratives différentes, en tout cas d'auteurs. Alors, c'est le succès de la bande dessinée aujourd'hui. Bien sûr, ces prix du Festival d'Angoulême y ont participé. Et en tout cas, aujourd'hui, la bande dessinée a pris une place importante. C'est le deuxième secteur de l'édition qui vend le plus de livres en France après la littérature générale. Alors, une année comme l'année 2023 est marquée par la sortie d'un album d'Astérix, d'un album de Gaston. C'est conséquent. Dans le top des meilleures ventes de livres en 2023, c'est Astérix qui arrive en premier avec l'Iris Blanc de Fab Caro et Didier Conrad. Et puis, le dernier Gaston, le retour de la gaffe de Delaf. Et c'est eux qui vont troster ces premières places. Il y a aussi dans cette importance du milieu de la bande dessinée, du marché de la bande dessinée dans l'édition aujourd'hui, le manga, il y a une place prépondérante. Il y a des séries qui sont très conséquentes et qui vont participer aussi à l'importance de l'édition et de la vente d'albums. Alors, One Piece est le gagnant à contester. La série One Piece occupe 6 places sur les 10 meilleures ventes de manga en 2023. C'est pas peu dire. Et il y a donc un engouement qui est absolument déterminant. Alors, la raison... Il y en a plusieurs, c'est que une des premières, c'est qu'on a découvert un patrimoine qui existait au Japon depuis très longtemps, en relativement peu de temps, puisque les débuts de l'édition de manga en bande dessinée se sont faits par quelques revues, c'était à la fin des années 70, et il y a eu quelques titres qui sont parus, et puis on a eu par exemple Akira, on a eu Dragon Ball Z, des séries qui ont amorcé la pompe et qui ont fait que beaucoup d'éditeurs se sont mis à publier des mangas, et il y avait de quoi faire, puisque le Japon est le premier producteur de bandes dessinées dans le monde. Donc on se retrouve avec énormément de parutions. Un album sur deux vendu aujourd'hui, c'est une bande dessinée, c'est un manga. Donc une bande dessinée sur deux est un manga à la vente. Et donc ça montre l'importance de ce secteur éditorial aujourd'hui et qui est d'une très très grande diversité, puisque dans le manga, il y en a pour les garçons, pour les filles, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les adultes, il y a tous les thèmes possibles peuvent être déclinés, on peut apprendre à faire la cuisine avec un manga. Il y a des récits épiques qui peuvent durer une centaine d'épisodes. Tout est vraiment possible. Donc le manga est un des phares aujourd'hui de l'édition de la bande dessinée en France. Il y a aussi une autre raison, c'est le prix. Ces mangas sont meilleur marché, permettent à des lecteurs moins fortunés de pouvoir lire facilement. C'est une difficulté pour les bibliothèques, parce que quand vous devez avoir la centaine d'épisodes d'une série, c'est toujours un peu plus difficile et il faut la place. Mais en tout cas, il y a une diffusion et un accès qui est beaucoup plus facile. Le prix des bandes dessinées, autre que le manga, ayant aussi augmenté, ça devient d'autant plus facile de lire avec le manga. Il y a une troisième raison qui me paraît aussi essentielle, que l'on peut rapprocher de la musique rock. Lorsque le rock arrive dans les années 50, c'est une musique qui est différente, qui est comme un ovni et qui va susciter un engouement extrêmement dense, important, et qui va se traduire aussi une vingtaine d'années plus tard avec l'apparition des punks qui vont une nouvelle fois créer une rupture et bousculer ce qui commençait à s'établir dans la musique rock. Au niveau du manga, on a la même différence. Le manga, quand il arrive en France, c'est un ovni. Dragon Ball Z n'a pas du tout les mêmes codes que les autres séries. Et on a une écriture qui est spécifique, qui ne reprend pas les formes narratives de la bande dessinée francophone ou anglo-saxonne et qui va très facilement attirer de nouveaux lecteurs qui ainsi découvrent une autre forme et s'affirment en étant passionnés par cette nouvelle forme narrative. Et ça y est, le mouvement est lancé. Dans la sélection officielle des prix d'Angoulême, il y a de nombreux mangas qui montrent bien l'importance de cette littérature dessinée. Alors, quelques mots sur cette sélection, ces sélections officielles. Alors, il y a un point de règlement important qu'il est nécessaire de connaître, c'est que les prix sont choisis sur les albums parus entre le 1er janvier et le 30 novembre d'une année. Et donc, ça permet d'avoir un repère. Alors, ceux qui sont parus en décembre, eh ben, mauvaise pioche, parce que l'année d'après, ils passent à la trappe, comme les autres. Et donc, c'est peut-être un point d'injustice. Mais en tout cas, toujours une difficulté, qui va se souvenir qu'au mois de janvier 2024, la Neige et Sale de Isler et Jean-Luc Fromental, d'après un roman de Siménon, est paru, alors que c'est un album assez exceptionnel, et on n'est pas sûr de le retrouver dans la sélection du Angoulême 2025. Alors, là où il y a un point à souligner, et ce qui montre aussi l'importance d'Angoulême par rapport à nos envies de lecteurs, ce que l'on peut découvrir à partir de cette sélection officielle et des palmarès, eh bien, d'une part, c'est qu'ils sont beaucoup moins nombreux qu'auparavant. À un moment, il y a eu le prix du scénariste, le prix de la meilleure adaptation, le prix du comics, le prix du manga, et on en rajoutait et on en rajoutait. Et là, donc, la sélection officielle va décerner donc le Fauve d'Or pour le meilleur album de l'année, quelle que soit son origine géographique, quelle que soit sa forme et donc son genre littéraire, et c'est, que ça soit une série ou pas. Et c'est donc un point essentiel qui permet d'avoir un choix beaucoup plus conscient et qui permet de vraiment faire apparaître une forme et une écriture qui mérite un tel prix. Et puis on va retrouver celui de la jeunesse et des lycéens. Il y a un prix du Polar, alors qui est dû aussi aux partenaires du festival. C'est un peu la mode, vous nous donnez de l'argent et on met un prix à votre nom. C'est un peu pesant, mais c'est la règle en fait de ce type de mécénat. Il y a aussi d'autres prix, comme par exemple celui du patrimoine, qui est un prix assez essentiel parce que ça permet de revenir sur des œuvres passées et on en reparlera. Donc en tout cas, sur cet ensemble de prix, ça fait plus de 80 albums qui ont été sélectionnés pour ces différents prix. Et simplement avec ces 80-là, il y a des choses, des livres extrêmement diverses. Par contre, c'est évident qu'on ne va pas tout aimer, on va avoir des sensibilités très différentes. Il y a tous les domaines qui sont représentés. On a des démarches narratives qui peuvent surprendre, qui sont plus radicales, plus d'avant-garde. Mais en tout cas, ça permet de montrer une très grande dynamique, une très grande créativité de la bande dessinée de ces années 2020. Deuxième titre de Bachung, et on va parler un peu plus de livres après.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé, la discorde qu'on a semée. À la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore moi. Les pluies acides déchantent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Nouvelle immersion dans le festival d'Angoulême. Alors c'est toujours impressionnant de s'y retrouver. Il y a énormément d'expositions, des rencontres avec des grands créateurs qu'on aura du mal à rencontrer chez nos libraires parce que ils sont à l'étranger et font rarement des séquences, des circuits de dédicaces et de rencontres en France. Donc ces moments des masterclass sont très importants. Et puis il y a des rencontres avec des personnes qui vont pouvoir faire un bilan de l'année écoulée, ou alors par exemple il y a une rencontre cette année sur les 5 plus grands festivals de bande dessinée dans le monde, et c'est une façon d'aborder la bande dessinée aujourd'hui. Il y a un autre point qui est marquant dans l'évolution de la bande dessinée de ces 20 dernières années, c'est le changement de la présence de la bande dessinée dans les médias. Il y a eu une difficulté très importante, c'est que, par exemple, des auteurs comme Franquin, comme Hergé, n'ont pas été reconnus tout de suite par les médias pour leur art. Et donc, on a méprisé, il n'y a pas d'autre mot, la bande dessinée, et les médias l'ont ignoré pendant très longtemps. Quelques interviews ont été faites avec ces grands auteurs, mais il a fallu attendre quand même pas mal d'années. Et puis, petit à petit, avec l'ouverture de la narration, les récits plus adultes, l'autobiographie, le documentaire dessiné, les romans graphiques, il y a eu une perception de l'art de la bande dessinée qui était plus facile, et sa présence dans les médias a considérablement changé, et ce qui fait que un public beaucoup plus large s'est constitué et trouve son plaisir aussi dans la lecture de la bande dessinée. Étienne Robial, qui était le directeur et créateur des éditions Futuropolis, disait: après un roman, lisons une bonne bande dessinée. Et c'était tout à fait ça. Ou après une bonne bande dessinée, lisons un roman. Il y a dans la sélection officielle, donc ce, par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure le palmarès pour le prix du patrimoine, le Fauve du patrimoine. Et il y a notamment le très beau titre des éditions Veucci Cucci, l'anthologie Imagex, et je ne peux lui souhaiter que la meilleure réussite possible. Et puis il y a la jeunesse. Alors, la jeunesse a une difficulté, c'est comment on fait pour que des jeunes auteurs puissent se familiariser avec l'écriture de la bande dessinée. Alors, dans la sélection du prix jeunesse, il y a Mini-Golf, qui est donc un récit pour les tout-petits, et c'est un livre tout à fait étonnant, parce qu'on est vraiment sur cette écriture qui permet à de jeunes lecteurs de s'approprier une narration en images avec une chronologie et qui peut utiliser différentes cases qui vont se succéder dans une page. Ça vous paraît simple pour vous qui pouvez lire sans problème, et on entend souvent des adultes dire: ah ouais, non mais moi la bande dessinée, ben là j'y comprends rien, je sais pas par où il faut lire, c'est une catastrophe. Je sais pas. Voilà. Alors, là, c'est dit gentiment, mais parfois c'est un peu plus appuyé. Et donc, il y a une formation de lecteur, comme il y a une formation de lecteur à faire pour les différents types d'écrits. Il y en a un à faire pour ces livres qui utilisent texte, images et mise en scène. Donc, ce Mini-Golf va montrer des grandes images, par exemple, où l'œil de l'enfant va pouvoir circuler et repérer l'ensemble des éléments de cette image. Alors, c'est bien sûr celle d'un mini-golf. Et puis, on va avoir un texte qui sera placé en récitatif, et la lecture accompagnée est tout à fait souhaitable, mais il y a aussi cette familiarisation avec une représentation très libre que permet le dessin. On peut faire parler une balle de golf, on peut faire parler différents objets, et il y a aussi cette représentation. Comment un enfant va pouvoir acquérir le fait que cette représentation d'une balle qui va parler, eh bien, ça fasse sens et que ça lui permette d'accéder à toute la finesse de l'histoire. Alors, c'est un livre qui a été publié par la Maison Georges, qui est donc une maison d'édition qui a deux revues pour les jeunes, et qui va... Alors, j'essaie de vous retrouver précisément le nom de la... c'est pas facile. Des fois, mon ordinateur rechigne. Et donc, il y a cette façon de présenter ce livre qui, immédiatement, un enfant va prendre ses repères, va savoir que le livre lui est adressé, et c'est vraiment une excellente formation pour les jeunes lecteurs. Les éditions, donc la Maison Georges, fait ce travail auprès des jeunes lecteurs pour les familiariser avec le dessin, sa représentation et aussi sa narration en images. Donc là, on était sur la jeunesse. Et puis, dans la sélection officielle, je voulais vous parler d'un livre. Donc, j'avais parlé du tome 1, c'est The Nice House on the Lake. C'est un comics. Le tome 2 de ce diptyque, mais on n'en est pas tout à fait sûr. On a le sentiment d'avoir une fin qui est un peu trop ouverte pour que ça s'arrête là. On a beau avoir une capacité imaginaire à inventer des suites ou à s'approprier une fin, là, on a l'impression que c'est les auteurs qui eux-mêmes qui vont le faire. Alors, le scénariste, c'est James Tynion IV, le dessinateur Alvaro Martinez Bueno, et il y a un coloriste, parce que les coloristes s'affirment de plus en plus dans le comics, c'est Jordi Belair. Alors c'est une histoire tout à fait étonnante, un homme convie un ensemble d'amis dans une maison, une belle maison au bord du lac, et en fait, pendant qu'ils se retrouvent, venant d'horizons différents, mais certains donc se connaissent, il y a une sorte d'apocalypse qui se déclare en dehors, et le personnage qui les a conviés devient de plus en plus trouble et s'apparente donc avec une civilisation autre. Et tout va se transformer en interrogation, en questionnement, pourquoi on est là, qu'est-ce qui va se passer, comment on réagit, comment on se regroupe, on se solidarise, comment on fait face à ce bouleversement profond. Il y a un sens de l'intrigue qui est impressionnant, c'est un scénariste qui commence à se faire une place importante dans les scénaristes des comics aux États-Unis. Et puis il y a une mise en image qui joue pleinement sur toute l'ampleur qu'a cette histoire et avec toutes les ramifications qui peuvent être faites et qui sont abordées et approfondi. Donc on a vraiment un objet tout à fait particulier qui montre l'importance de la révolution qui s'est opérée dans le comics il y a une dizaine d'années et qui fait qu'on a des récits qui sont souvent plus courts, plus resserrés, des mises en images qui sont avec des partis pris très différents. On est loin des séries avec des super-héros en super-slip qui déambulent dans des super-villes et qui sont avec un trait plutôt très léché et qui restent dans un cadre très fermé au niveau créatif. Là, nombre de séries, et j'ai cité récemment Friday, qui fait partie aussi... Friday, I'm sorry, qui fait partie de la sélection officielle pour le Fauve d'Or, font partie de ces nouveaux auteurs de comics américains et qui montrent l'importance de ces champs qui sont maintenant explorés par ce type de narration. Il y a un sens des dialogues qui est assez pointu et qui personnalise vraiment chacun des protagonistes. Il y a donc une traduction qui est donc assurée par Maxime Ledin et qui est très très fin dans cette cohérence d'ensemble et dans cette facilité d'accès à ce récit. Et puis il y a cette mise en image qui n'est pas là avec un style fermé comme un procédé, mais qui s'adapte pleinement à cette intrigue, à ce drame, à cette tragédie même. Et puis il y a ce personnage qui a convié tous les autres, qui semble avoir des pouvoirs tout à fait particuliers, être une sorte d'origine extraterrestre, et qui est traité graphiquement là aussi avec beaucoup d'inventivité. Il y a une mise en couleur qui, elle, ressemble plus du tout à ce qui se faisait il y a quelques années, où le dégradé informatique était roi, mais de nouveaux coloristes, femmes et hommes, se sont appropriés cet univers pour en faire vraiment un lieu d'excellence et d'une mise en couleur pleinement narrative. Alors, ces deux livres qui sont assez denses, hein, parce que le nombre de pages est très conséquent, là ce tome 2 fait 190 pages, il y a un voyage. C'est un voyage narratif tout à fait inhabituel et qui montre comment le simple fait d'associer de l'image et du dessin, eh bien, peut créer des univers assez exceptionnels. Donc là, le comics aussi est en pleine création et il y a vraiment faut y aller, quoi. Faut aller voir. Et puis voilà, vous allez voir. Les découvertes sont nombreuses. C'est publié par les éditions Urban Comics. Et donc, ça a été publié en France. De nouveau, Bachung.
Thank you.
très beau, Bachung. Je voudrais poursuivre en évoquant trois livres. Je ne vais pas présenter la totalité de la sélection si c'est pour dire trois secondes d'argumentaire, c'est un peu court. Mais je voudrais évoquer tout d'abord Une enfance de paille de Lika Nusli, qui est une artiste pluridisciplinaire qui va pratiquer le dessin, la bande dessinée, mais qui s'exprime aussi à travers la peinture, les installations et les performances. C'est une artiste nomade et qui, dans Une enfance de paille, va raconter un secret de famille qui n'est pas un secret, elle le dit, mais c'est... Le père, son père, quand il était enfant, a été placé par ses parents dans un foyer paysan et les agriculteurs donnaient en échange une petite pension que le père venait chercher et l'enfant devait exécuter tout un ensemble de tâches, aller chercher les bêtes au pré, les traire, faire du nettoyage dans l'étable, faire les courses. Voilà, c'était un multitâche. Et puis le dessin de Lika Nusli est un dessin au trait très énergique qui rappelle certaines ambiances d'art brut et ça donne un récit de grande ampleur sur cette transmission du père à sa fille d'une histoire et la façon de l'exprimer. Et c'est un très beau livre, c'est publié par les éditions Atrabile et ça se trouve donc dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême pour le prix du meilleur album. Et puis il y a un polar qui est un très beau livre qui s'appelle Sian et c'est de Lucia Biagi et qui est aussi une autrice et qui va faire une couleur narrative puisque dans son récit, le rouge, le jaune et le cyan, ce sont des couleurs de peau qui vont déterminer les trois classes sociales d'une société qui est très proche de la nôtre. Les jaunes, c'est les plus aisés, les rouges, c'est la classe moyenne, et les bleus sont les plus pauvres. Il y a une façon aussi de ceux-ci. Ils sont discriminés et repoussés dans un quartier qui s'appelle Bonifacio et qui est le quartier défavorisé de la mégalopole de Bourne. Alors, sur ce contexte, il y a une intrigue policière qui est mise en place, qui fonctionne très bien. Et il y a surtout cette mise en image où les couleurs tranchées, contrastées vont marquer les personnages et vont donner une lecture inhabituelle. À plusieurs reprises, j'ai présenté ces nouvelles mises en couleur où on est avec des teintes tranchées, contrastées. Et là, Lucia Biagi reprend ce principe et fait une narration qui accroche vraiment le lecteur. Et l'étrangeté de la mise en image fait aussi merveille. C'est un autre titre qui est en lice pour le meilleur album de polar de cette année 2023. Et puis, je voudrais terminer avec un autre album candidat à un prix, c'est Frontières, qui est un récit de Gilles Saint-Gelin et qui est vraiment une écriture assez inhabituelle et particulière dans la bande dessinée, puisque c'est un récit de science-fiction, mais il y a une approche qui est fort différente, où l'auteur a vraiment laissé maturer son récit. Il y a dans le cahier graphique quelques commentaires et qui montrent qu'en 2013, où l'idée d'un d'un récit de SF commençait à émerger. Il y a eu plusieurs étapes jusqu'à celle que l'on a. L'idée première était d'utiliser des personnages aux formes différentes. Ce sont des humains, ils ont des formes humaines, mais ils sont de plus petite taille. Il y a une façon de les représenter plutôt inhabituelle. Et donc on est tout de suite dans une autre atmosphère, dans le rapport à aux personnages. Et puis il y a un autre point qui est essentiel, c'est une écriture du fourmillement. Chaque image de frontière est détaillée. En fait, l'auteur décrit un monde qui serait une sorte d'émanation future d'une autre, comme une conséquence, une sorte de capitalisme mondial universel, au sens où il est répandu partout, avec des corporations, avec un rapport à la science qui est complètement contrôlé et verrouillé. Il y a une relation donc de domination assez importante, des planètes qui peuvent servir plutôt de réservoir à différentes ressources, mais aussi des ressources humaines. Et il y a une vie qui va se faire dans différents vaisseaux. Gilles Saint-Gelin a choisi de développer son récit sur 200 pages et donc d'avoir de l'espace, d'avoir du temps pour que on soit proche des personnages, mais on soit aussi pleinement dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. Une des grandes forces de ce récit, c'est que le contexte de l'histoire va se modifier, puisque au départ, on est vraiment dans les vaisseaux, dans des architectures très rectilignes, très géométriques, avec ce poids de l'innovation, de la technologie qui est omniprésent, avec donc ces fourmillements de détails dans les différentes images qui donnent vraiment au contexte et à ces lieux une présence. Et on va, à différents moments du récit, changer de cas, se retrouver sur une planète où la vie terrienne est possible, et on aura des paysages de nature qui vont contraster complètement avec celui de la technologie que l'on trouve dans les vaisseaux. Le récit, en plus, est très 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 habile, construit avec une grande précision, où l'intrigue a différents rebondissements, où il y a des séquences qui sont un peu comme des séquences gratuites qui ne vont pas complètement influer sur le déroulement ou sur l'évolution de l'intrigue, mais qui sont des événements ou des péripéties qui permettent d'approfondir des personnages et de leur donner une profondeur psychologique essentielle. C'est un récit aussi sur la résistance, sur comment imaginer d'autres modes, d'autres façons de vivre. Et là aussi, on va être dans un autre environnement avec d'autres choix, en tout cas, de vie exprimés par les personnages. Il y a trois personnages principaux qui vont être le fil conducteur de l'ensemble, mais en tout cas avec cette mise en couleur aussi d'une très grande précision où on est dans les lieux, on est aussi bien dans les vaisseaux qu'en pleine nature, et c'est un bonheur de lecture. Frontières de Gilles Saint-Gelin, de Saint-Gelin, est publié par les éditions Rue de Sèvres. Les 200 pages de ce livre sont au prix de 22 euros. J'essaye de vous trouver le lieu d'édition. Eh bien, c'est en France, chez les quelques éditeurs qui font aussi de la reliure et qui publient beaucoup de bandes dessinées. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec un des invités lauréats d'un prix à Angoulême. On verra. Très bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.